Lors de la visite pastorale de Mgr Brouvet en vallée du Rhône, le mercredi 27 novembre, Mgr Brouvet a béni la grotte de Lourdes qui se trouve sous le calvaire de Saint-Julien de Pérolas. À l'occasion de cette bénédiction, Mgr Brouvet nous a donné un magnifique enseignement. Le voici.
Je suis très content de bénir cette grotte. Figurez-vous que j'ai eu la chance de pouvoir prier dans des grottes, dans des lieux, dans des grottes de Lourdes, vous voyez, dans des lieux improbables du monde. Par exemple, dans le Bronx, à New York, j'ai célébré la messe dans une grotte à ciel ouvert, à Manhattan aussi, mais en Hongrie, en Égypte, à Assise, dans quelques coins des États-Unis aussi, et en Alabama par exemple, où il y a une grotte qui est assez récente. J'ai béni une grotte toute neuve en Jordanie. C'est dire si les grottes, il en existe. Vous voyez, il y a une chose qui est assez incroyable, c'est que, par exemple, Fatima, ben, vous avez une statue. Padre Pio, vous avez une statue. Saint-Vincent de Paul, vous avez une statue. Mais Notre-Dame de Lourdes, il faut la grotte. Évidemment, il y a des statues toutes seules, mais souvent, on aime bien qu'il y ait la grotte. Figurez-vous qu'au début du XXe siècle, une religieuse missionnaire sur deux dans le monde était française. C'est dire si on envoyait des religieux, des religieuses partout, des missionnaires partout. Et au début du XXe siècle, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils bâtissaient une grotte de Lourdes. C'est pour ça que Lourdes est tellement répandue. Aux États-Unis, vous avez 500 lieux dédiés à Notre-Dame de Lourdes ou à Sainte-Bernadette. Et vous avez des grottes un peu partout dans le monde, et par exemple en Chine. Pourquoi les Chinois? Vous avez 2000 Chinois qui viennent à Lourdes chaque année. Pourquoi ils y viennent? Parce que dans leur paroisse, les missionnaires français avaient construit une grotte. Et donc, ça a été un peu, si vous voulez, la marque de fabrique, si je puis dire, de Notre-Dame de Lourdes, d'avoir non seulement une vierge, mais une grotte. Quand j'étais en Hongrie, par exemple, j'ai été bénir une grotte qui était restaurée après la période communiste. Ça avait pris un petit peu de temps, mais c'était un sanctuaire qui était devenu un lieu, disons, sécularisé. Et puis, les franciscains ont repris ce lieu et ils ont restauré la grotte et ils m'ont invité justement pour la bénédiction. Des années après la tombée du rideau de fer, mais voilà, ils tenaient à cela. Et alors, on se dit, mais pourquoi une grotte? Pourquoi est-ce que la grotte, justement, on a envie d'en construire? Et que c'est à peu près le seul cas, vous voyez, où on construit pas seulement la statue, mais ce qui va autour. En fait, quand on réfléchit à ce que c'est qu'une grotte, d'abord, si vous voulez, c'est un lieu de refuge, parce que les premières habitations, c'était des grottes. Même jusqu'au XXe siècle, le promeneur qui était perdu, il cherchait une grotte, au moins, pour passer la nuit. Et donc, dans la grotte, il y a l'idée d'un refuge. L'idée du lieu où on va être en sécurité. L'idée d'un lieu où on pourra dormir, passer la nuit, se réfugier, quoi. C'est la première chose que la grotte signifie. Mais nous savons bien qu'une fois que vous êtes dans la grotte la nuit, il fait noir, et vous dites, si je m'endors et qu'il y a un serpent, ou qu'il y a un ours, par exemple, vous voyez. Et donc, le fond de la grotte, c'est quand même un lieu de terreur aussi, un lieu d'angoisse, un lieu dont on ne sait pas s'il n'y a pas quelque chose qui va sortir. Alors c'est intéressant de voir qu'à Lourdes, justement, la source jaillit dans le lieu le plus éloigné du bord, dans le lieu le plus profond, dans le lieu, disons, le plus ténébreux. Et ça, c'est très beau parce que ça nous dit une chose essentielle, c'est que le Christ nous donne son salut, mais il vient nous visiter aussi dans les parties, vous voyez, les plus ténébreuses de notre être, de notre existence. En fait, il vient éclairer toutes les zones d'ombre. Il vient nous donner de l'espérance, même là où nous pensons qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus que la mort, il n'y a plus que le noir, où il n'y a plus que l'angoisse et la peur. Et le Christ est là, présent, et sa source jaillit précisément dans ce lieu-là, dont on pensait qu'il ne pouvait rien jaillir devant. Ça, c'est le mystère de Lourdes. Disons, les apparitions de Bernadette racontent cela magnifiquement, quand elle est à genoux, quand elle mange de l'herbe, quand elle se met de la boue sur le visage. C'est vraiment l'image de l'humanité pécheresse, mais qui va trouver dans la grotte, dans l'eau jaillissante, justement, l'eau du salut, l'eau du Saint-Esprit. Et du coup, ça nous montre comment la grotte, parce que la grotte, vous voyez, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est aussi la matrice, le sein, d'où on peut naître. Prenons conscience, vous voyez, que justement, par les eaux vives du salut, par l'eau du Saint-Esprit, nous renaissons à la vie de Dieu. Voilà pourquoi, au fond, je pense que la grotte, elle dit tout cela confusément, peut-être pas tout à fait consciemment à tout le monde, mais on a besoin de cette image de ce refuge, de cette image de cette petite maison, de cette image de Marie qui nous accueille et qui nous tient à l'abri, de cette image de Marie qui est là, présente au-dessus de la grotte et qui nous prend dans son manteau et qui nous dit, bah, viens, toi qui as marché sur les routes, toi dont la vie est difficile, toi qui as connu des épreuves, toi qui avances dans la nuit, eh bien, viens te réfugier. Voilà, mon refuge, il est là. Mais Marie, c'est aussi la mère, vous voyez, par laquelle nous sommes enfantés à la vie de Dieu. Elle est mère de l'Église, mère des chrétiens. Et nous ne sommes pas faits pour rester dans la grotte, en fait. Nous sommes faits pour venir y boire, comme nous le faisons à Lourdes, et puis pour en repartir. Nous avons trouvé le refuge pour un moment. Nous avons trouvé l'eau vive du salut. Et ensuite, nous partons dans le monde. Personne n'est, vous voyez, on est fait pour aller dans nos villages, dans nos vies, dans nos milieux, dans nos associations, dans nos familles, simplement pour témoigner que le Christ est vraiment notre salut. Et voilà ce qui suscite aussi notre Magnificat avec Marie, notre action de grâce, parce que le Seigneur fait pour nous des merveilles, parce que le Seigneur est là présent dans notre vie, parce que le Seigneur nous remet en route, il nous relève, il nous donne son espérance. Avec Marie. Alors je suis content de bénir cette petite grotte. Ce qui est beau, c'est que, vous voyez, bon, ça ne ressemble pas à la grotte de Lourdes, mais enfin, c'est une grotte. Et en Alabama, par exemple, ils ont fait une grotte un peu à l'américaine, si je puis dire. Il y a un grand couvent qui est la réplique exacte du premier monastère des Clarisses à Assise. Donc pour aller faire la réplique exacte d'un monastère d'Assise en plein désert d'Alabama, parce que c'est pas le désert, mais si vous voulez, il n'y a rien, quoi. C'est incroyable. Et puis, alors, ils ont fait cette réplique. Et puis, en face, pour les autres, ils ont fait un château fort, crénelé. Vous voyez? Parce qu'ils se disent, waouh, ça ira bien avec le. Puis là, il y a une grotte de Lourdes. Et alors, bon, bah, si vous voulez, quand on va par derrière, on s'aperçoit que c'est comme un décor de cinéma. Peu importe. Moi, je trouve ça extrêmement touchant. Et puis c'est un peu américaine, alors il y a, vous savez, nous on va prendre l'eau avec nos mains, quoi. Mais là il y a des gobelets, il y a des gobelets, vous voyez, un tube avec des gobelets qu'on prend là. Et je trouve ça extrêmement touchant de voir comment on va, en fait, ces Américains ont besoin du signe fort de cette grotte. Et je trouve que à chaque fois, même si ça ressemble pas, ça n'est pas une réplique exacte, mais l'idée c'est qu'il y a une grotte. L'idée que c'est qu'on trouve refuge auprès de Marie. L'idée que c'est qu'on ait un moment, vous voyez, pour s'arrêter, pour s'abreuver. Et moi, je souhaite que dans cet ensemble paroissial, eh bien, nous trouvions au milieu de nos vies agitées, vous savez combien on parle beaucoup en ce moment de la difficulté pour tous les vignerons, pour tous ceux qui vivent de la vigne. J'aimerais, il y avait hier près de Combes, justement, un gros pneu de tracteur avec marqué agriculteur détresse. Et si cette grotte pouvait être un lieu de refuge pour les parents, pour les professionnels, pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont envie de demander à Marie de les protéger, de les soutenir, de les accompagner, un lieu où on peut pleurer, vous voyez, un lieu aussi où on peut repartir avec le cœur apaisé, pas apaisé, avec la joie dans le cœur.
C'était l'enseignement de Mgr Brouvet au moment de la bénédiction de la grotte de Lourdes qui se trouve sous le calvaire de Saint-Julien de Pérolas. Toute l'assemblée s'est ensuite dirigée en pèlerinage à l'église même de Saint-Julien de Pérolas, où la messe fut célébrée. Voici l'enseignement, l'homélie de Mgr Nicolas Brouvet.
Voilà, on a entendu cet évangile de la fin de l'évangile de Luc. On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et très vite, les chrétiens ont été persécutés dans leur foi. Très vite, les chrétiens ont fait l'expérience qu'ils n'étaient pas souhaités partout. Et la première communauté chrétienne s'est souvenue des paroles de Jésus, en comprenant qu'il y a une joie de l'Évangile, il y a une joie de devenir chrétien.
Il y a une joie à se savoir aimer inconditionnellement de Dieu. Il y a une joie à être promis à la résurrection d'entre les morts. Il y a une joie à savoir que nous sommes faits pour le royaume, faits pour la vie éternelle. Mais que cette joie, elle se heurte aussi à la persécution, à l'incompréhension, à tous les procès qu'on peut faire contre les chrétiens. Et le premier procès, certainement, c'est de dire, au fond, vous êtes crédule. Au fond, vous n'êtes pas libre, parce que vous vivez sous tutelle. Les chrétiens se sont rappelés de ces paroles du Seigneur, et vous voyez ce qu'il dit et qui nous intéresse vraiment. Cela vous amènera à rendre témoignage. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Alors, devant les moments où, peut-être qu'au XXIe siècle, nous ne sommes pas vraiment persécutés, nous ne sommes pas conduits en prison, en tout cas pas en France, mais il y a des formes plus subtiles de mise à l'écart, de neutralisation de l'espace public, à travers en particulier une laïcité dévoyée où on demande aux croyants de ne pas parler de leur foi. Évidemment, nous ne sommes pas jetés en prison, mais il y a manière de nous mettre à l'écart, à tel point d'ailleurs que nous intériorisons cette mise à l'écart et que nous n'osons pas parler tranquillement, publiquement de notre foi chrétienne. Nous avons des pudeurs, nous pensons que ça n'est pas légitime. Et du coup, le thème de notre passion pour le Christ, eh bien, ne vient jamais sur le tapis. Tout le monde a le droit de parler de sa passion du football. Tout le monde a le droit de parler de sa passion pour son chanteur préféré ou de sa musique préférée. Tout le monde a le droit de parler de son sport préféré, qu'il le pratique ou qu'il le regarde à la télévision. Et pourquoi nous, notre passion, nous ne pourrions pas la partager? Parce que nous avons intériorisé une fausse conception de la laïcité, parce que nous avons intériorisé que la question religieuse est une question qui peut être mal reçue, et du coup, nous avons peur des réactions. Et pourtant, nous le savons, autour de nous, il y a des gens qui attendent un témoignage de foi. Et là, ce qui est beau, c'est que le Seigneur dit, cela vous amènera à rendre témoignage. Même si vous êtes persécuté, même si vous êtes en difficulté, même si on cherche à neutraliser votre parole, rendez le témoignage. Rendez le témoignage de votre foi. Et il ajoute, c'est moi qui vous donnerai, ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas de la manière dont vous allez vous défendre, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Alors, il nous reste justement, vous voyez, à nous mettre devant le Seigneur et à mendier l'Esprit Saint. Parce que vous savez, les quatre grandes raisons pour lesquelles on a des gens qui viennent à la foi, ils ont 30-40 ans, et moi je leur demande chaque année, pourquoi est-ce que vous demandez le baptême ou la confirmation? La première raison, c'est, en fait, j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu, une divinité, quelqu'un au-dessus de moi, quelqu'un qui m'a créé, et puis je ne savais pas très bien quoi dire, qui c'était. On ne m'a pas baptisé, je ne suis pas dans une famille chrétienne, je n'ai pas été catéchisé, je suis même peut-être dans une famille anticléricale, donc j'ai toujours cru qu'il y avait quelqu'un, mais il a fallu attendre 30 ans, 40 ans pour que je trouve un témoin qui m'en parle clairement, qui me donne l'Écriture, qui me disent, est-ce que tu veux que j'en prie ensemble? Qui dit, regarde ce calvaire ou cette grotte, voilà ce qu'elle raconte. Qui dit, est-ce que je peux juste être à tes côtés dans ce moment d'épreuve? Il a fallu un témoin. Et vous avez tout un tas de gens qui cherchent du sens en ce moment. Vous savez que non seulement on a des adultes qui demandent le baptême, mais on a plein d'ados qui demandent le baptême. Il y a une école dans notre diocèse où il y a 30 demandes de baptême. Et ils cherchent. La deuxième raison pour laquelle il y a des gens qui demandent le baptême ou la confirmation, c'est qu'ils disent « j'ai traversé l'épreuve ». Je me rappelle d'une fille de 29 ans qui était tout à fait, si vous voulez, intégré, et qui avait une profession, et qui, après son épreuve, une très lourde épreuve, nous a dit « soit je me suicidais, soit je me jetais dans les bras de Dieu ». Il y a des gens qui traversent de lourdes épreuves, et qui, à un moment, si vous voulez, ouvrent leur cœur et leurs mains, et disent « Seigneur, je suis à toi ». Ils font la rencontre du Christ. Mais là aussi, sur leur route, ils ont trouvé quelqu'un qui les a portés dans leur prière, quelqu'un qui leur a dit une parole, juste une parole, pas laborale, mais une parole pour les soutenir, qui leur a dit combien ils sont aimés de Dieu, combien ils sont aimés du Christ, que le Christ est mort et ressuscité pour notre salut. La troisième raison pour laquelle il y a des gens qui demandent le baptême et la confirmation, c'est exactement le contraire de la deuxième. C'est « moi j'ai tout ». Moi j'ai la maison, j'ai un époux, une épouse, j'ai des enfants, tout va bien. J'ai des vacances, j'ai la voiture, j'ai les assurances, mais ça ne donne aucun sens à mon existence. Il y a des gens qui cherchent du sens. Et puis enfin, il y a une quatrième raison qui est très importante, c'est la parentalité. Vous avez des parents qui viennent à la fois par leur enfant. Soit parce que une femme a porté un enfant dans son sein et elle se dit « mais c'est pas moi qui l'ai créé ». Ce petit bonhomme qui est en train de grandir devant moi, qui est en train de courir et d'apprendre à parler, et il me vient d'ailleurs, il est un témoignage de l'existence de Dieu. Mais il y a des parents qui font un chemin de foi parce que leurs enfants en font un. Parce qu'une fille prépare sa première communion avec une telle ferveur, parce que leur fils se prépare sa confirmation avec beaucoup d'engagement. Et les parents disent, ben, c'est ça que je cherche aussi, j'ai envie de faire le chemin avec toi. Si je vous dis cela, c'est pour vous dire que n'ayons pas peur de témoigner de notre foi. Parce qu'il y a des gens qui attendent, parce qu'il y a des gens qui sont en recherche de témoins. Et alors, vous savez, parfois on n'ose pas prendre la parole, mais si on osait la prendre, mais d'abord en priant l'Esprit Saint. Esprit Saint, inspire-moi les mots et les paroles, inspire-moi les attitudes. Seigneur, viens dans mon cœur, mais viens dans le sien aussi, parce que j'ai vraiment envie de lui dire cela. Et si on laissait faire l'Esprit Saint dans notre mission? Parfois, être évangélisateur, ça nous fait peur. C'est normal. Si c'était humain, ça serait, c'est normal que ça nous envoie, si c'était quelque chose d'humain. Mais en fait, là, on est là juste pour laisser le Seigneur parler à travers nous, pour laisser l'Esprit Saint faire, pour dire, Seigneur, voilà, je me mets à ta disposition. Donne-moi les mots qui sont tes mots, donne-moi les gestes qui sont tes gestes. Donne à l'Esprit Saint de me donner les langues nécessaires. Tout à l'heure, avec l'EAP, on a eu un beau moment ensemble, et je comprends combien c'est difficile d'être missionnaire, mais j'ai vu aussi que dans l'ensemble paroissial, il y a de très beaux projets. Par exemple, quelqu'un disait, ben, il y a des week-ends Emmaüs à Rochefort-du-Gard pour les hommes et pour les femmes, et c'est vrai, moi j'ai trouvé des hommes et des femmes qui retrouvaient la foi. Eh bien, si jamais toute la paroisse se disait, ok, Seigneur, montre-nous qui inviter. Seigneur, donne-nous l'audace d'inviter à ces week-ends. Il y a un couple qui s'occupe, des jeunes couples voilà, qui se préparent au baptême, au mariage avec le père Barnabé, et qui organisent des week-ends aussi à Rochefort-du-Gard. Eh bien, si on peut prier tous ensemble, disant, Seigneur, donne-nous de témoigner de la beauté et de la grandeur du mariage. Et vous voyez, on peut se mettre tous ensemble en se disant, ben voilà, il y a ce qui a été repéré dans notre ensemble paroissial. On parlait aussi des groupes vidéo. Mettons-nous tous, voilà, pour que voilà, ça soit comme un élan commun. Et c'est vrai qu'il y a du combat. Alors ce qui est beau, c'est que dans l'Apocalypse est vraiment le livre qui nous parle de ce combat. Et qui nous dit, oui, dans toute la vie de l'Église, il y aura une sorte de combat acharné. Parce que, si vous voulez, notre premier combat, c'est le combat contre notre ego, contre notre droit. Il ne veut pas se décentrer, qui a du mal à laisser de la place au Christ. Qui a du mal à se consacrer au Seigneur, à se consacrer au Saint-Esprit. C'est ça le premier combat. Mais il y a un combat aussi profond, c'est le combat de Satan contre l'Église, du tentateur contre ceux qui veulent se donner au Christ. C'est normal qu'il est là parce qu'il ne veut pas que le royaume de Dieu s'étende. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons des saints, que nous consacrions au Seigneur. Et dans tout l'Apocalypse, on voit ce combat terrible. Et là, vous voyez, dans le passage qu'on a lu, on arrive pratiquement au bout de ce combat. Et alors que Babylone, c'est Rome au fond, c'est-à-dire la cité païenne par excellence, Babylone est en train de perdre pied. et Babylone est en train de chuter, quoi. Et voilà que, à la fin du livre, vers la fin du livre de l'Apocalypse, voyons les sept anges qui détiennent sept fléaux, c'est-à-dire ceux qui vont, au nom du Christ, faire triompher le Seigneur ressuscité. Et puis, voilà que ceux qui ont été fidèles au Seigneur se tiennent debout. Ils ont en main les cithares de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, rois des nations. Et pourquoi c'est le cantique de Moïse? Vous savez, c'est le cantique de Moïse quand il est sorti de la mer Rouge. C'est un chant de victoire. Oui, parfois nous sommes plongés dans la mer. Oui, parfois nous sommes au fond du gouffre. Oui, parfois les épreuves sont telles que nous nous demandons si nous avons encore la foi. Nous savons bien que notre avenir, c'est de sortir des eaux de la mer Rouge. La victoire, elle est déjà acquise par le Christ ressuscité. Et nous, c'est notre foi profonde que même au milieu des ténèbres, même au milieu des épreuves, le Christ est là, présent, ressuscité. Et que nous pouvons déjà chanter le cantique de Moïse. C'est-à-dire chanter le cantique d'action de grâce. Chanter notre cantique de louange. Bénir le Seigneur. Dans l'épreuve, il y a une première chose à faire, c'est-à-dire « Seigneur, je te loue parce que tu m'as créé. » Seigneur, je te bénis pour les grâces que tu me donnes. Seigneur, je sais que tu es là présent, victorieux. Ça, c'est notre chant de louange qui doit monter vers le Seigneur, y compris quand c'est compliqué, y compris quand nous sommes en plein combat. Mais c'est précisément ça qui nous fait nous tirer du combat. C'est de confesser la victoire du Seigneur ressuscité. C'est de confesser la grandeur et la puissance du Christ mort et ressuscité pour notre salut. N'oublions pas la louange. Chantons à la messe et je remercie tous ceux qui nous font chanter. La louange, c'est notre avenir. La louange, c'est vraiment ce pourquoi nous sommes faits. Au ciel, nous chanterons la gloire et la louange de Dieu, l'action de grâce au Dieu très haut, comme les 144 000 de l'Apocalypse. Et voilà pourquoi il est si important que dans nos journées, nous ayons la louange. Sinon, nous allons nous enfoncer dans les ténèbres. Il est important que dans nos journées, un chant de louange monte de notre cœur. Et qu'il soit privé ou communautaire, pour redire au Seigneur combien nous confessons son nom, combien nous confessons sa victoire, combien nous nous appuyons sur lui, combien nous savons qu'il est notre espérance et notre avenir.
C'était l'homélie prononcée par Mgr Nicolas Brouvet le mercredi 27 novembre dernier, alors qu'il faisait une visite pastorale sur le secteur de Pont-Saint-Esprit, et plus précisément, la messe fut célébrée à Saint-Julien de Pérolas.